Salut Pierre-Yves.
Bonjour.
Alors, offre de privatisation comme premier sujet de la compagnie de la baie du Tson et fallait s'y attendre.
Oui, parce que le groupe de Richard Baker qui avait décidé de faire une offre aux actionnaires actuels a décidé de renchérir et de dire « OK, on va faire une offre qui est acceptée par le conseil d'administration. » Évidemment, les actionnaires doivent approuver. Mais en somme, on offre 10,30$ pour l'action de la baie du Tson, de la compagnie de la baie du Tson, qui est quand même une des plus vieilles. C'est en fait la plus vieille compagnie en Amérique du Nord. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution. Depuis plusieurs années, dans ces chroniques, j'explique les déboires financiers de la baie, puis je dis, ben, l'entreprise vaut quelque chose au niveau des immobilisations, parce que, au-delà des beaux commerciaux que dans les centres commerciaux, faut pas oublier des immeubles de prestance comme celui du centre-ville de Montréal ou autres, qui font en sorte que les actifs immobiliers de la baie valent cher. Ouais. Mais si on continue à perdre de l'argent avec l'exploitation comme on le fait présentement, ben, veut, veut pas, on va finir par canarder cette valeur-là jusqu'à la fin, parce que le taux d'endettement de la compagnie est très élevé. Donc, dans le moment, les actionnaires reçoivent pas une grosse prime sur le prix du marché, parce que le prix du marché était déjà élevé depuis l'offre de cet été. On frôlait déjà les 10$ récemment, mais c'est quand même une prime de 62% par rapport à la valeur avant la première offre du groupe. Donc, on voit que on veut vraiment privatiser l'entreprise. Et Marc-Claude, je sais pas si tu te souviens de l'époque où la baie était florissante.
Oui, très bien.
Très bien, il y a une
c'est
époque...
C'est même l'époque t'avais... de Eaton, c'est te dire.
Ouais. Ben moi aussi, là, Marie-Claude, ça peut te soulager. Je suis allé chez Eaton magasiner dans ma jeune vie adulte, mais c'était la vente de faillite, tu comprends, je visais les soldes. Ouais. Donc, il y avait Eaton... Eaton, la baie et Sears, c'était les trois piliers du magasinage des Québécois et c'était assez simple. Mais aujourd'hui, les goûts se sont raffinés. On veut plus nécessairement aller dans un magasin à rayon avec toutes les compagnies. On va aller dans le magasin qui a sa propre compagnie ou son propre magasin et qui plus est, aller en ligne, etc. Donc, la compétition a augmenté. T'as eu des Forever 21 qui sont arrivés, qui ont aussi eu des problèmes financiers. Les Quicksilver aussi. T'as eu Jacob qui a disparu. Mex qui est parti. Donc, tu vois qu'il y en a eu beaucoup au fil des ans qui sont partis. Et la baie est toujours restée. Mais... quand on regarde l'action, c'est sûr que...
ça diminue.
Ça a augmenté récemment à cause de l'offre, mais au niveau du rendement des actionnaires, ça vivote. Puis tu sais, dernier trimestre publié, l'entreprise a perdu 984 millions de dollars. Et c'est Seigneur. Beaucoup d'argent pour un trimestre. Quand
mais là, avec mais Pierre-Yves, avec cette offre-là, ça s'en va où? Je veux dire, la baie du Tson va continuer d'opérer comme avant ou ça va changer complètement ou on sait rien de rien?
On sait rien de rien, mais côté privé, ce qui va se passer, la première des choses, c'est que si c'est accepté par les actionnaires, on va arrêter d'avoir des résultats trimestriels qui plombent l'image. Deuxième point, les actionnaires privés vont avoir un plan qu'ils sont pas vraiment obligés de divulguer au grand public. Par exemple, il se peut que ça devienne un jour une société immobilière, puis que le but, ce soit de diminuer tranquillement la valeur des ventes de la baie au niveau de certains centres commerciaux. Tu sais, ils ont peut-être encore des beaux commerciaux dans certains établissements qu'il vaut mieux opérer plutôt que fermer. Ouais. Des fois, ça vaut la peine d'opérer plutôt que de perdre le coût de la pénalité du bail commercial. Et c'est peut-être ça qu'on veut faire. Mais il faut se dire que plus on va diminuer le volume et les nombres de points de vente, moins on va être capable d'amortir les coûts fixes de tout ce que ça représente de faire du commerce de détail. Donc, c'est peut-être ça le problème majeur. Mais il en demeure pas moins que c'est sûr que l'avenir de la baie n'est pas la baie en tant que vendeur de guenilles. Tu sais, on n'est plus là, on n'est plus à la même place qu'avant, puis les résultats financiers le montrent. Tu sais, si tu réussis à perdre 984 millions sur des revenus totaux de 1,9 milliard, c'est beaucoup trop. Surtout pour un magasin qui allait bien une époque et que là, ça empire de trimestre en trimestre. Hein. Et la question, c'est, il n'y a pas d'avenir très rose pour tous les domaines du commerce de détail qui est la revente. Ceux qui vont survivre fort, ce sont les commerces de coin de rue, ceux qui offrent un service, comme je dis souvent, ta coiffeuse ne peut pas se vendre sur Internet.
Non, personnalisés, des trucs de communauté, effectivement, ça fait toute la différence. Dis-moi, changeant de sujet, SoftBank prendrait le contrôle de WeWork?
Oui. Écoute, SoftBank, qui est un des actionnaires les plus importants de WeWork, la compagnie de coworking, et la compagnie qui a été exposée à des scandales depuis quelques semaines. Et là, SoftBank dit, OK, selon les rumeurs qui sont publiées sur CNBC, dit, ils vont injecter un autre 4-5 milliards et ça amènerait l'entreprise à une valeur totale d'au mieux 8 à 9 milliards. Mais donc, imagine une entreprise qui était évaluée à 47 milliards il y a quelques temps par les investisseurs privés, qu'on voyait venir en bourse, qui tout d'un coup s'effondre. Pourquoi? Mais parce qu'on commence à sortir des chiffres qui n'ont pas de sens. On démontre que le modèle d'affaires est en perdition. On démontre que finalement, on s'est perdu dans beaucoup d'investissements. Écoute, l'ancien président a même vendu le mot « oui » à la compagnie, c'est-à-dire qu'il a dit, moi, là, l'idée du oui quelque chose, c'est mon idée, puis ça vaut 5,9 millions de dollars, vous allez me payer ça. Donc, je suis pas sûr qu'une entreprise qui est en difficulté financière devrait payer ça.
Ouais.
Écoute, il s'est payé un jet privé de 60 millions, alors que l'entreprise est en perte pour 2018 de 1,9 milliard. Tu sais, il y a quelque chose d'un peu fou quand t'es dans une start-up qui est sur le bord d'être en... une start-up qui est évoluée, mais qui est pas encore en bourse, puis qui veut aller en bourse, puis que t'es pas capable de démontrer ton modèle d'affaires ou la rentabilité future, puis qu'en même temps, d'un autre côté, tu brûles du cash sans réfléchir. Écoute, il s'était même fait faire une espèce de bain nordique dans son bureau adjacent. Donc, tu sais, des fois, il y a des gens qui deviennent un peu mégalomanes.
Un peu, tu dis?
Un peu. Ils perdent le sens un peu des priorités.
Faudrait que t'ailles les voir, personnellement.
Ah, mais je pense qu'ils m'écouteraient pas, le petit comptable du Québec, tu sais. Mais pour être honnête, c'est pas tout seul. Il y a d'autres compagnies comme Uber. On vend le futur. On vend la domination du marché du taxi. Mais l'action a quand même planté depuis l'entrée en bourse. Pourquoi? Parce qu'on voit pas le jour où ça va faire de l'argent. Donc, ça a beau être le fun. Ça a beau être adopté par les clients. On a beau être fier du produit. Au niveau des flux monétaires, au bout du compte, on se dit comment rentabiliser tous les milliards qui ont été investis et comment générer un bénéfice net avec les revenus qu'on réussit à générer présentement, même après plusieurs années d'opération.
En effet. Écoute, on se laisse là-dessus, Pierre-Yves. Merci de ces renseignements précieux. Bonne élection à toi aussi. Salut.